Jusqu'au 7 mai chez BMR, il y a 25% de rabais sur les teintures et peintures d'extérieur Sico. Pas cher, ça. BMR. Pour les vrais, des conditions s'appliquent.
Concilier études, travail et famille. Découvrez les 26 certificats en gestion de HEC Montréal. Admission en cours. Choisissez HEC Montréal, l'école de gestion.
Au réseau Cogeco Média. Cogeco Média. Cogeco. Voici le Québec maintenant. Québec maintenant, avec Philippe Cotin.
Comment ne pas être excité en pensant à la dernière demi-heure de l'émission? On va parler de politique et de hockey, deux choses qu'on adore. Valérie Leboeuf est là pour les nouvelles. Valérie, les électeurs québécois ont jusqu'à 21h30 pour se prévaloir de leur droit de vote.
Oui, il faut dire que le quart des électeurs avait déjà voté par anticipation. Et quelles sont les motivations de ceux et celles qui se sont rendus aux urnes aujourd'hui? Mon collègue Karl Marchand est allé à leur rencontre du côté de Montréal.
Alors, une belle journée, pas d'excuses pour ne pas aller voter. Et comme pour plusieurs, cet homme avait le président américain en tête.
Un peu, oui, c'est en partie du vote. Mais j'ai voté pour le parti qui me convenait le mieux.
Mais d'autres priorités font aussi surface.
C'est vraiment pour du changement.
Okay.
Oui, ça n'avait pas rapport avec les États-Unis.
On a un député depuis longtemps, puis on veut le garder.
Moi, c'est de voir du changement. Dans les dernières années avec Trudeau, ça a été un petit peu stagnant. Il a un petit peu, selon moi, fait trop à sa tête.
Mais l'ombre de Donald Trump le plane jamais bien loin.
Mon cœur était déchiré entre le NPD et le Parti libéral, mais j'ai voté avec mon cœur.
Un jour, dit cet électeur, il faudra bien passer à un autre appel.
Ah, ben, je suis inquiet en général de ce qui se passe sur la planète, mais pas aujourd'hui, de ce qui s'en vient avec les élections. Je pense qu'on peut arrêter de penser à Trump, là. Il y a d'autres choses que lui.
Ici Karl Marchand, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Et Valérie, l'Ordre des ingénieurs du Québec lance une tournée de consultation pour répondre au déficit croissant d'entretien des infrastructures publiques.
Oui, déficit qui atteint désormais 40,2 milliards de dollars. Et sur nos ondes, la présidente de l'Ordre, Sophie Larivière-Manta, a expliqué que cette dégradation des infrastructures faisait craindre le pire pour la sécurité du public, ce qui rappelle tristement l'effondrement du viaduc de la Concorde à Laval. C'était en 2006.
Nécessairement, on peut penser qu'il y a un risque là, en lien avec un 40 milliards là, de maintien actif qui n'est pas réalisé. Nous, alors des ingénieurs, pour déterminer où sont ces enjeux-là, mais notre objectif à nous, c'est définitivement que ça n'arrive pas. On ne veut pas alarmer la population, mais on pense que c'est un enjeu qui est prioritaire à adresser, notamment avec notre mission de protection du public. Là. Vous le voyez, là, même mes collègues des autres professionnels là, sortent sur ce sujet-là.
Et on a appris aujourd'hui à quelle date s'amorcera le conclave.
Oui, ça va s'amorcer en fait le 7 mai prochain. Les règles en place stipulent que le conclave doit s'ouvrir entre la 14e et 20e journée suivant le décès du pape. Mercredi la semaine prochaine, les 135 cardinaux seront ainsi réunis à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire le prochain souverain pontife. Et en moyenne, les derniers conclaves ont duré 2 jours en 2005 pour Benoît XVI et 2013 pour le pape François.
Et les Américains ont perdu un avion de chasse de plus de 60 millions de dollars.
Oui, c'est un avion de chasse qui a glissé du pont du hangar d'un porte-avions en mer Rouge. La marine américaine a confirmé dans un communiqué que l'appareil était remorqué dans le hangar quand l'équipe en a perdu le contrôle et s'est retrouvé par-dessus bord. Il y a un marin qui a été légèrement blessé. Selon un responsable américain cité par CNN, l'incident serait survenu alors que le navire effectuait un virage serré pour échapper à des tirs des rebelles houthis du Yémen.
Et les ventes de pizza Domino ont chuté aux États-Unis durant le premier trimestre de l'année.
Oui, c'est l'inflation élevée et l'incertitude économique qui sera en partie responsable de la baisse des ventes. Selon ce que rapporte l'agence Reuters, la fréquentation des restaurants a ralenti en février et mars. La confiance des consommateurs qui s'est affaiblie principalement en raison de la politique commerciale erratique du président Donald Trump qui a attisé les craintes d'une récession possible prochainement aux États-Unis.
Merci beaucoup Valérie, je te souhaite une bonne soirée électorale.
Bonne soirée, on vous écoute ce soir.
Merci beaucoup. Il y a du hockey également parce que les séries éliminatoires de la Ligue nationale se poursuivent ce soir. Le Lightning de Tampa Bay qui est en Floride pour affronter les Panthers. Les Panthers qui mènent la série 2-1. Et à Dallas, au Texas, eh bien, l'Avalanche du Colorado affrontera les Stars. C'est l'égalité 2-2 dans la série. Je vous rappelle que le Canadien ne joue pas demain. C'est la seule exception à la règle d'un match aux deux jours. La prochaine rencontre aura plutôt lieu mercredi. C'est bien sûr à Washington.
Montréal 98.5.
7h05, c'est une journée absolument splendide à Montréal aujourd'hui. 21 degrés du soleil ce soir et cette nuit, quelques nuages avec un minimum de 9. Demain, une autre journée ensoleillée jusqu'à environ la mi-journée. Là, il y aura quelques averses un petit peu plus tard en après-midi, mais un beau maximum de 22 degrés. Mercredi, c'est le retour à des températures plus saisonnières avec un maximum de 12 degrés. Pour le moment, malheureusement, le week-end ne s'annonce pas magique. Là. Vendredi et samedi, c'est nuageux avec averses, mais attendons, c'est simplement lundi et tout ça changera peut-être. Dans quelques minutes, Mario Langlois sera là. On va parler du match du Canadien hier et du match du Canadien dans deux jours, mercredi. Est-ce que l'équipe peut revenir dans cette série contre les Capitals de Washington? Ça s'annonce difficile après l'échec crève-cœur de demain. Mais pour l'instant, on va mettre la table sur notre soirée électorale sur les ondes du réseau Cogeco Média. On sera avec vous à compter de 21h. Et là, toute l'équipe est déjà là, à pied d'œuvre. Valérie Beaudoin, bien sûr, avec j'aurai le plaisir de co-animer la soirée.
Pourquoi changer une formule gagnante quand c'est si le fun, la présidentielle américaine?
Tout à fait, tout à fait, Valérie. Alors, je suis super heureux de te retrouver dans ce contexte-là. Et on sera flanqué de deux experts qu'on est très heureux d'accueillir. Dimitri Soudas, bien sûr, Dimitri qui a fait sa chronique il y a un moment. Rebonjour, Dimitri.
Rebonjour.
Et Philippe Léger. Philippe, on t'entend pour la première fois de la journée. On est très heureux de t'accueillir. Alors, vu que c'est la première fois que tu es là aujourd'hui, Valérie, là, depuis le début de l'émission, Dimitri, depuis...
On nous a entendu.
Je veux
c'est
savoir...
C'est jamais assez, Valérie.
comment tu te sens? C'est quand même, il y a une certaine fébrilité. Hein? Une soirée électorale, c'est le fun.
C'est toujours le lundi d'une campagne électorale. C'est comme toujours, on dirait que l'énergie, il y a comme une fébrilité, mais c'est comme ça rebaisse un peu parce que là, les jeux sont un peu faits, donc il n'y a plus grand-chose à faire et à analyser. Moi, j'ai hâte de voir ça avec quoi la dynamique de cette soirée électorale, parce que, bon, il y a toujours les sondages qui nous permettent d'en savoir un peu plus, mais on ne sait jamais tant que le vote n'est pas dans l'urne et que les résultats ne commencent pas à sortir.
Ouais. Dimitri, qu'est-ce que tu vas surveiller au début de la soirée? Nous, on est en onde à 21h. Au Québec, les bureaux de scrutin ferment à 21h30. C'est la même chose dans l'Ouest, 21h30, heure du Québec. Mais on aura des résultats des Maritimes un petit peu plus tôt.
Oui, et ce que je vais chercher dans les Maritimes, c'est de voir si les libéraux peuvent répéter leur exploit de 2015. C'est-à-dire, en 2015, Justin Trudeau avait gagné 32 sur 32. Mm-hmm. C'est une belle façon de commencer la soirée. Mm-hmm. L'autre côté de la médaille, c'est est-ce que les conservateurs vont pouvoir faire les percées qu'ils espèrent? Celui qui sort gagnant du Canada Atlantique commence à avoir un petit avantage compétitif. Ensuite, on va se rendre au Québec. Je dirais qu'au Québec, je vais surtout surveiller est-ce que le Bloc va réussir à garder ses acquis ou est-ce que l'offensive Carney, cette nouveauté du banquier, va faire en sorte que... Puis les libéraux me disent, ils espèrent battre le résultat de Justin Trudeau en 2015. Il y a beaucoup de comparaisons.
Combien de sièges pour les libéraux en 2015?
En 2015, ils avaient gagné 40. Ce soir, ils espèrent gagner entre 45 et 48.
Ah oui.
Donc, si les libéraux commencent fort au Canada Atlantique et au Québec, ça va être très difficile par la suite. Parce que l'Ontario, les sondages, le pointage, ce que j'entends sur le terrain, ça va être quand même assez difficile pour les conservateurs. Les conservateurs ont besoin d'avoir 85, même 90 sièges en Ontario. Présentement, ils sont dans la quarantaine.
Présentement, avec les sondages.
À l'heure actuelle, non, à l'heure actuelle. Exact.
OK.
Puis moi, juste dire sur le Québec, là, plus précisément, tous les comtés du 450, donc de la rive nord puis de la rive sud, qui sont des terres bloquistes, où que le nationalisme québécois s'est toujours déployé à la fois au Québec puis au fédéral. Là, c'est le vrai test entre les libéraux et le Bloc québécois. Si le Bloc québécois ne résiste pas dans Repentigny, dans Terrebonne, dans Longueuil,
la prairie, oui.
Je t'oublie
c'est,
pas,
c'est à l'intérieur.
C'est à l'intérieur. Ouais. Ben, si des députés comme à l'intérieur ont un mauvais score ce soir, c'est toute une soirée pour le Parti libéral du Canada.
OK. Toi, Valérie, qu'est-ce que tu surveilles?
Moi, je surveille. J'ai un syndrome post-traumatique des sondages pour avoir couvert plusieurs élections américaines. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point on peut se coller.
Il y en avait en Iowa, hein?
Oui, on s'en est déjà parlé de ça. On a ça à la mémoire. On était très loin de ça dans les résultats. Mais bon, blague à part, j'ai hâte de voir si on est collé sur ces prévisions-là ou si finalement, finalement, on peut avoir un revirement de situation. Puis j'ai hâte d'entendre nos deux analystes ce soir aussi nous parler d'à quel point la course a changé. T'sais, je veux quand même qu'on prenne le temps de revenir juste un petit peu sur le fait qu'il y a 6 mois, il y a 1 an, on n'avait aucune idée de comment pourrait être la situation. Hein? Jamais non plus une fille de politique américaine se serait aussi intéressée, aurait aussi commenté la politique fédérale. Alors, cette ombre de Trump sur l'élection, voir l'effet là-dessus, ça aussi, ça va être intéressant.
C'est resté l'enjeu, hein?
Ben oui, c'est l'enjeu dans tous les sondages. On parlait de sondages, là. Bon, la première chose sur les sondages aux États-Unis, là, il y a beaucoup de firmes qui sont très, très partisanes, très proches de partis politiques. Au Canada, c'est un peu moins pire. Et tous les sondages au Canada semblent montrer la même direction. Il y a quelques sondages qui montrent que c'est un peu plus serré entre les libéraux et les conservateurs. Mais la très, très grande majorité des firmes de sondages tendent à montrer le même score dans la même marge d'erreur.
Un autre élément de cette campagne électorale que nous sommes en train de voir, c'est que le choix, selon ce que nous voyons jusqu'à date, est devenu binaire. C'est-à-dire, soit libéraux, soit conservateurs. Peu importe qui perd ce soir, ils vont plus ou moins rafler les 38 à 41 %.
Ce qui est quand même pas mal.
Mais juste pour vous donner une analogie, Stephen Harper a gagné sa majorité avec 38 %. Jean Chrétien a gagné ses majorités avec 38-39 %. Donc, en temps normal, quand le choix n'est pas binaire, donc quand le NPD performe, quand le Bloc performe...
Tout à fait. 38 %, c'est suffisant pour gagner une majorité. Et là, disons, dans les sondages, à l'heure actuelle, les conservateurs pourraient avoir 38 % si on suit au sondage, et puis se retrouver et ne pas gagner.
Oui, avec un gouvernement minoritaire quand même.
Et même majoritaire libéral à 38 %, ce qui serait assez incroyable. Je donne un autre exemple. Par exemple, tu sais, dans les courses à trois, là. En 2015, Colombie-Britannique, les libéraux finissent troisième en termes de vote, en termes de nombre d'électeurs qui ont voté pour eux. Qui a eu le plus de sièges? Le Parti libéral du Canada, pareil. Donc, ce qui commande, ces courses à trois-là peuvent donner des drôles de dynamique. L'autre chose, Dimitri parle d'un choix binaire entre le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur. Moi, j'irais même plus loin. C'est un choix binaire entre concours de personnalité entre Pierre Poilievre et Mark Carney, d'abord et avant tout. C'est pour ça que cette campagne-là... Puis si, par exemple, autre chose, si, par exemple, les deux grands partis, rouge et bleu, s'accaparent plus de 80 % du vote, ça fait que la première fois en 60 ans depuis, je pense que c'est 1958, Louis Saint-Laurent. Là. Vous comprenez là, la binarité, à quel point c'est important dans cette campagne électorale-là?
Est-ce que vous pensez qu'il y a des chefs qui pourraient perdre leur siège?
Ben, Jack Metzing, c'est pratiquement... Bon,
on va attendre à 21h30, mais je dirais du plus à risque au moins à risque.
Oui. Ouais, voilà.
Du plus à risque, c'est Jack Metzing, Yves-François Blanchet en deuxième place, Pierre Poilievre, troisième place.
Tu mets Blanchet devant Poilievre?
Oui, je suis surprise.
Oui, je mets Blanchet devant Carney. Pourquoi? Parce que hier et aujourd'hui, j'ai parlé à des stratèges bloquistes, j'ai parlé à des stratèges conservateurs. Je leur ai demandé 2 questions. Hier, je leur ai demandé leur pointage. Je leur ai demandé quel était votre pointage en 2021 comparé à 2025. Aujourd'hui, je leur pose une autre question. Est-ce que votre vote est en train de sortir? Et celui qui est le moins à risque, c'est Mark Carney.
OK. Donc, toute la question de stratégie du vote, de sortir le vote, pardon, c'est au cœur de l'engagement encore. Dimitri, encore une fois, puis pour compléter là, ce segment, je fais appel à ton expérience sur le terrain. Il est 18h13. Là. Un stratège politique, peu importe qu'il soit pour le Bloc, pour les conservateurs, pour les libéraux, là, il regarde l'horloge. Là. Il reste 3h15 pour aller voter. Qu'est-ce qu'ils font?
2 choses. La première, c'est qu'ils voient quelle circonscription qu'ils ont ciblé où le vote est sorti. Une fois que ces circonscriptions, tu dis, voici mes 25 circonscriptions ciblées. Dans 15, le vote est sorti. Tu prends les effectifs de ces 15 circonscriptions et tu les envoies aux 10 autres circonscriptions où le vote n'est pas sorti.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec 3 heures? Là, tu continues de faire beaucoup, des appels.
T'appelles. tu fais 3 choses. Tu appelles, tu cognes sur des portes, mais l'élément le plus important, tu envoies des autos, des chauffeurs.
Le transport.
Et tu transportes les gens. Tu les prends par le collet, littéralement, et tu leur dis, un vote pourrait faire la différence et ce sera votre vote.
Hmm. Oui, bien, il y a des gens qui se disaient, ils voulaient faire sortir le vote en disant, vous voyez les sondages, et il peut avoir un effet aussi que les gens disent, ah, ben parfait, les libéraux vont, par exemple, gagner, moi, j'irai pas voter, mon vote sert à rien, ou c'est déjà, les jeux sont déjà faits. Il y a ces gens-là aussi qu'il faut les motiver, parce que si tu penses que c'est réglé, le cas, ben, tu restes chez toi. Je reviens toujours à la politique américaine, mais Hillary Clinton, quand Donald Trump s'est présenté la première fois, combien de gens sont restés sur leur sofa, c'était ça l'expression qu'on disait, là, faut sortir, voter. Alors, c'est ça aussi le danger pour plusieurs partis politiques.
Deux choses à ça. Le vote par anticipation montre qu'il y a quand même une mobilisation. Puis
c'est
quand
quoi,
même
le quart des électeurs qui ont voté?
Exactement.
C'est
bien. Il y a une participation qui est quand même élevée. L'autre chose là-dedans, il y a un danger aussi.